Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 9 juillet 2020. Tout Melbourne est depuis ce matin confiné et l'État du Victoria totalement isolé du reste de l'Australie. Aux États-Unis, les universités de Harvard et du MIT attaquent le gouvernement en justice après que celui-ci ait annoncé qu'il interdisait l'entrée des étudiants étrangers sur son territoire. Et en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui souffrait de problèmes cardiaques, est mort. Et depuis ce matin, toute la ville de Melbourne est de nouveau confinée. Ses 5 millions d'habitants n'ont le droit de sortir que pour faire les courses, donner ou recevoir des soins, faire du sport. Et enfin, pour aller travailler ou pour aller à l'école s'il n'est pas possible d'exercer cette activité à la maison. Au-delà de Melbourne, l'État du Victoria est lui désormais totalement isolé du reste du pays puisque depuis mardi, la frontière avec les Nouvelles-Galles du Sud est fermée et c'est désormais également le cas de la frontière avec l'Australie méridionale. Mais le reste du pays ne doit surtout pas relâcher sa vigilance. C'était le message qu'a fait passer hier le ministre de la Santé Greg Hunt sur le 7 Network.
Right from the outset, we've said that any state, any territory, at any time, could have an outbreak, and I think it's very important that there's no hubris or view that one state is immune.
Et puis l'État du Queensland aussi a décidé de fermer la porte à tous les Victoriens. À partir du 10 juillet, ils n'auront même plus la possibilité d'être placés en quarantaine. Les autorités se contenteront de les refouler, de les renvoyer de là où ils viennent. Le même traitement, à vrai dire, s'appliquera également à tous ceux qui auraient été dans l'État du Victoria au cours des 14 derniers jours, à l'exception des habitants du Queensland eux-mêmes qui rentreraient chez eux depuis l'État du Victoria. Mais avant de pouvoir regagner leur foyer, ils devront se soumettre à une quarantaine de 14 jours dans un hôtel et à leurs propres frais. Pour Stephen Miles, le ministre de la Santé du Queensland, c'est la décision des Nouvelles-Galles du Sud de fermer sa frontière avec le Victoria qui l'a poussé à prendre la même décision.
Because of that escalating rate of cases in Victoria and because of the lag between that community transmission and the application of the New South Wales border, we are announcing today additional measures to ensure we keep Queensland safe.
Et en Nouvelle-Galles du Sud non plus, les contrôles aux frontières ne sont pas parfaitement étanches, puisque mardi, les passagers d'un avion en provenance de Melbourne ont pu débarquer à Sydney sans être soumis au moindre contrôle. En conséquence, le ministre fédéral de la Santé a annoncé qu'il allait aider les autorités locales à retrouver la trace des passagers de ce vol assuré par Jetstar. Jetstar, la compagnie aérienne qui, pour sa part, a indiqué qu'elle avait permis aux autorités de mettre la main sur 89 des 137 passagers de ce vol avant même qu'ils quittent l'aéroport. Il en reste donc 48 à contacter. Des tests de dépistage sont déjà prévus pour 45 d'entre eux et les trois derniers ont pour leur part été signalés à la police. Deux des plus prestigieuses universités américaines, Harvard et le MIT, ont lancé des poursuites en justice contre le gouvernement. Le département de la sécurité intérieure a décidé d'interdire aux étudiants étrangers d'entrer sur le territoire en raison de la pandémie en cours. Une décision qui place les universités américaines en grande difficulté puisque, comme en Australie, leur équilibre budgétaire est largement tributaire des frais de scolarité versés par les étudiants internationaux. On fait le point avec la correspondante à Washington de Radio France Internationale, Anne Corpé.
L'ordre est tombé sans préavis, sa cruauté n'est surpassée que par son imprudence, écrit le président de Harvard dans un communiqué. Et Larry Baco ajoute « Nous pensons que c'est une mauvaise politique publique et nous pensons qu'elle est illégale. » La directive du département de la sécurité intérieure qui menace les étudiants étrangers d'expulsion si l'établissement qu'ils fréquentent ne propose qu'un enseignement à distance est tombée quelques heures après qu'Harvard a annoncé que tous ses cours seraient dispensés commencer de manière virtuelle à la rentrée. Hier, le président a qualifié cette décision de ridicule. Les avocats des deux universités qui attaquent l'administration en justice écrivent dans leur plainte que la décision du gouvernement est arbitraire et capricieuse. Ils dénoncent un passage en force en dépit des risques sanitaires encourus par les élèves et les professeurs et demandent au tribunal d'empêcher l'entrée en vigueur de la directive. À L2, l'université de Harvard et du MIT compte près de 9000 étudiants étrangers sur plus d'un million à travers le pays. Anne Corpet, Washington, RFI.
États-Unis toujours, le candidat démocrate à l'élection présidentielle, Joe Biden, tire lui à boulets rouges sur le président Donald Trump. Il l'accuse de ne pas être à la hauteur de la crise sanitaire qui frappe les États-Unis et de n'avoir rien entrepris de nouveau alors que le nombre de cas de Covid-19 remonte en flèche en Amérique. Selon Joe Biden, si Donald Trump avait agi plus tôt, le nombre de morts aux États-Unis aurait pu être inférieur d'au moins un quart.
The storm we're facing today is unlike any we've seen in our lifetimes. More than 130,000 people dead because of the coronavirus. Columbia School, medical school is saying that there'd be, if he had acted several months earlier, just 1 week earlier, there'd be 36,000, I think it was, fewer people dead. He's not changed anything. This pandemic is still raging. It's going up.
Et oui, pour rappel, le coronavirus aux États-Unis, plus de 3 millions de personnes l'ont attrapé. Et comme l'indiquait à l'instant Joe Biden, 132 000 personnes en sont mortes. C'est le pays le plus sévèrement touché au monde par la pandémie. On change de continent. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre et candidat à la prochaine élection présidentielle qui est prévue à la fin du mois d'octobre est décédé hier à l'âge de 60 ans. Amadou Gon Coulibaly est mort à Abidjan. Il souffrait depuis plusieurs années de problèmes cardiaques. La correspondance de Magali Lagrange pour RFI.
Amadou Gon Coulibaly était de retour à Abidjan depuis jeudi dernier. Après avoir passé 2 mois en France, il s'était rendu début mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour un suivi médical suite à une grève du cœur subie il y a 8 ans. Quelques semaines plus tôt, mi-mars, le Premier ministre, qui occupait cette fonction depuis 2017, avait été désigné candidat du parti au pouvoir, le RHDP, pour la présidentielle prévue en octobre cette année. Ingénieur de formation, issu d'une grande famille du Nord, Amadou Gon Coulibaly était décrit par certains comme une personne discrète et travailleuse qui maîtrisait bien ses dossiers. Le Premier ministre était un fidèle du président Alassane Ouattara. Il collaborait avec lui depuis plus de 30 ans. Il était déjà là lors de la fondation du parti RDR en 1994. Lors de sa désignation comme candidat du RHDP en mars, le président Alassane Ouattara avait d'ailleurs déclaré « Amadou est plus qu'un collaborateur, plus qu'un frère, c'est un fils ».
Et le tout premier déplacement du pape François après son intronisation, c'était le 8 juillet 2013. Il s'était rendu sur l'île italienne de Lampedusa pour mettre en lumière la tragédie vécue par les migrants qui tentent de rallier l'Europe en traversant la Méditerranée. Un anniversaire dont s'est souvenu le chef de l'Église catholique, puisqu'il a donné hier une messe en mémoire à tous ceux qui risquent leur vie et parfois même la perdre en essayant de rejoindre l'Europe. À Rome, le compte-rendu d'Éric Sénanc.
Le souverain pontife tenait à marquer cet anniversaire où le 8 juillet 2013, depuis la petite île italienne du sud de l'Europe, il avait exhorté le monde à ne pas rester indifférent à la tragédie des migrants en mer Méditerranée. Dans son homélie, le pape François a rappelé combien le destin de ces personnes était encore bien sombre, ceux en particulier qui quittent les côtes libyennes.
Je pense à la Libye, aux camps de détention, aux abus et aux violences dont sont victimes les migrants. Je pense au voyage de l'espérance, au sauvetage et au refoulement.
Derrière chaque étranger, il y a le visage de Jésus, encore souligné le pape dans son homélie. François, qui parlant de la situation en Libye, a dénoncé une exploitation des migrants et tenté de réveiller les consciences.
On nous présente une version édulcorée de la réalité. La guerre, oui, est mauvaise, nous le savons, mais vous n'imaginez pas l'enfer qui se vit là-bas, dans ces camps de détention, pour ces personnes qui voulaient seulement traverser la mer avec espoir.
Alors que la crise migratoire est loin d'être réglée, le pape a rappelé l'un des axes forts de son pontificat. Seule la fraternité permet de construire sereinement un avenir. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Au Royaume-Uni, le gouvernement vient d'annoncer un plan de relance de l'économie d'un montant de 33 milliards d'euros. L'une des mesures phares, c'est la baisse de la TVA. On fait le point sur le sujet avec Muriel Delcroix pour RFI.
Rishi Sunak dit vouloir centrer ses mesures de relance sur le retour à l'emploi et la lutte contre le chômage des jeunes. Devant les députés, le ministre des Finances a ainsi expliqué que les entreprises percevraient une subvention de 1 000 euros pour chaque salarié repris à l'expiration en octobre du régime de chômage partiel, dont bénéficient actuellement plus de 9 millions d'employés. Rishi Sunak a également annoncé 2 milliards afin de subventionner des milliers de contrats de 6 mois de travail qualifié pour les jeunes de moins de 25 ans. Parmi les autres mesures, 3 milliards seront dégagés pour améliorer l'efficacité thermique des logements. Pour soutenir l'hôtellerie et le tourisme, la TVA sera ramenée de 20 à 5% pendant 6 mois. Et pour inciter les Britanniques à sortir, le gouvernement paiera la moitié des repas pris dans les restaurants du lundi au mercredi pendant le mois d'août. Ce plan a été salué par les milieux économiques qui préviennent néanmoins que le gouvernement devra aller beaucoup plus loin alors que la pandémie a provoqué une contraction historique de 25% de l'économie britannique. Même constat du côté de l'opposition travailliste qui demande l'extension du régime de chômage partiel et accuse le gouvernement de Boris Johnson d'avoir aggravé la crise économique par sa gestion calamiteuse de l'épidémie. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Allez, on traverse maintenant la Manche, direction Paris, où le président du Comité Olympique International, Thomas Bach, s'est rendu hier pour faire le point avec Emmanuel Macron sur l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Plusieurs projets, en raison de la pandémie, ne pourront pas être prêts à temps. Et la crise économique qui en découle contraint également la France à revoir un certain nombre de ses ambitions à la baisse. On fait le point avec Christophe Diremzian.
Comment concilier ambition initiale et nouvelle réalité économique pour la tenue des Jeux ? Paris 2024 a beau garder sa volonté de départ intacte, l'heure est à la recherche de marge de manœuvre dans le budget d'organisation, car les prévisions de recettes auprès des partenaires commerciaux, plus d'un milliard d'euros, soit près d'un tiers des revenus escomptés, vont peut-être devoir être revues, les grandes entreprises confrontées à la crise hésitant davantage à payer des tickets d'entrée parfois élevés, 100 millions d'euros par exemple pour le niveau premium. Le coup de rabot sur les dépenses pourrait atteindre 10%, notamment sur des secteurs peu visibles comme la restauration ou la sécurité, mais le comité d'organisation s'interroge aussi sur l'opportunité de réduire la voilure sur le village des médias, de redimensionner le site des sports urbains, place de la Concorde, ou de maintenir des épreuves comme le tir ou le volleyball dans des villes de Seine-Saint-Denis où la construction des transports en commun promis ne sera pas terminée à temps. Plusieurs élus du département refusent déjà tout retour en arrière au nom du respect des engagements pris en matière de développement de l'emploi et d'héritage. Réviser le projet tout en maintenant son identité et contenter tous ses acteurs, une équation complexe, mais une solution à trouver rapidement. Les discussions entre les parties prenantes doivent aboutir à l'automne pour une validation définitive du projet par le CIO à la fin de l'année.
Des explications donc fournies par Christophe Diremzian de Radio France Internationale. Comme d'habitude, on termine le journal avec la météo du jour. Il fait aujourd'hui 16 degrés à Perth où le temps est nuageux. Soleil en revanche à Adélaïde avec la même température, 16 degrés. 16 degrés aussi à Melbourne, 17 degrés à Sydney, 21 degrés à Brisbane qui est aujourd'hui balayé par des averses et jusqu'à 32 degrés à Darwin, une fois encore baigné dans un grand ciel bleu.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.